Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh, oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, vous le savez, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Claude Elena. Bonjour Jean-Claude Elena.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Jean-Claude Elena, vous êtes parfumeur, ou plutôt vous êtes un maraudeur, un voleur d'odeurs, le nez toujours à l'affût. Vous êtes tout ça?
Je suis tout ça, oui. Je me promène le nez au vent.
Nez au vent.
Oui, c'est le nez au vent. Et donc, le nez recueille de l'information et l'information se concrétise en parfum.
Et alors, l'information remonte au cerveau?
Ah oui, forcément, elle remonte au cerveau et puis elle déclenche tout un processus bien complexe qui fait qu'à la fin, je vais produire une formule qui sera un parfum.
Vous vous définissez aussi comme un écrivain des odeurs, de l'odeur.
Oui, j'aime bien cette définition d'écrivain d'odeur parce que avec les parfums, je raconte des histoires. Donc, pendant très longtemps, le parfum a été comparé à la musique et puis moi, je trouve que ça ne convient pas. Parce que, voilà, le parfum raconte des histoires. Et je raconte des histoires en parfum.
Et les parfums sont des mots. Jean-Claude Elena, voilà. Vous êtes plutôt du côté de la littérature.
Oui, la littérature m'a permis d'expliquer l'inexplicable. Parce que le parfum, c'est quelque chose de, voilà, qui est là, qu'on ne voit pas, qui est présent, très très présent, mais difficile à cerner, difficile à... Oui, on le perçoit, mais on le voit pas, on voit rien du tout. Donc, les mots, j'avais besoin des mots pour expliquer ce que je faisais, pour que ce que je faisais soit compréhensible, afin d'être accepté. Donc, j'ai besoin des mots pour expliquer le parfum.
Est-ce que c'est vrai que vous avez toujours un petit carnet Moleskine sur lequel vous écrivez vos sensations?
Soit j'ai un carnet Moleskine, soit j'écris partout, sur des feuilles de papier, puis après je remets tout ça au propre, mais enfin voilà, j'écris. Et puis mais toutes ces écritures ne sortent pas forcément, c'est de côté. Si j'ai besoin un jour, je vais les consulter et récupérer dont j'ai besoin.
Jean-Claude Elena, vous avez choisi comme journée particulière le 4 février 1963. Ce jour-là, vous entriez comme laborantin dans une parfumerie de Grasse.
Pour la Parisienne de toujours, comme pour l'élégante d'une Égypte ou d'une Perse disparue, le parfum enveloppe la femme, ajoute à son mystère. Il l'habille comme une tunique et chauffe sur sa peau nue.
L'Orient communique tout d'abord à la Grèce, à Rome, puis à l'Occident, sa passion des parfums. Les collines du Midi français, qui dominent l'antique mer latine, recueillent l'héritage, plus particulièrement au milieu des coteaux heureux, Grasse, centre mondial de la fabrication des matières premières. Les palmiers, les magnolias, les tamaris, les lauriers font de la ville cernée par les jacinthes et les roses de mai une capitale industrielle et poétique que les Chinois auraient dite celle des odeurs suaves.
Jean-Claude Elena, c'est une archive des années 60.
C'est Louise de Villemorin.
Oui, c'est ça.
Hein,
ouais.
Mais...
Quel âge vous aviez en 1963 quand vous...
16 ans.
16 ans.
Oui, 16 ans. Enfin, j'allais vers mes 17 ans, mais voilà. Je...
Quel jeune homme vous étiez?
Plutôt taiseux, oui, plutôt rêveur, plutôt... tout était intériorisé, donc...
Pas de mots, justement.
Oui, pas de mots, ça a changé. Non, pas de mots, plutôt intérieur, voilà. Tout était intériorisé, je parlais peu, je regardais beaucoup, et donc timide, hein, vraiment timide.
Donc quand vous vous présentez ce 4 février 1963, Jean-Claude Elena, vous avez peur, vous êtes intimidé quand vous vous retrouvez devant les établissements Anton Chéris.
Oui. Alors c'est un premier jour, et... juste avant de vous raconter l'anecdote, ce qui s'est passé, une anecdote, c'est que en 1963, 4 février 2013, je me suis réveillé le 4 février 2013 en criant, enfin criant, en disant dans mon lit, ça fait 50 ans que je travaille. Et ma femme, elle s'est réveillée, elle m'a regardé interloquée en me disant, mais toi qui n'as aucune, pas la mémoire des dates, comment tu te souviens? Je ne sais pas comment je m'en suis souvenu, mais ce jour-là, je me suis réveillé en disant, ça fait 50 ans que je travaille. Et ça, j'ai trouvé ça amusant. Et donc, voilà, le 4 février 63, quand je me présente, ben, d'abord j'ai peur. Je suis venu à pied de chez ma grand-mère, parce que je vivais à l'époque chez ma grand-mère, qui habitait Grasse. Et je viens à pied, c'est l'hiver, on est en février, il fait froid, c'est humide. Et il y a une grande grille qu'il faut passer, aller se présenter au concierge. Et voilà, je viens travailler. Alors je regarde, ah, vous êtes Jean-Claude Elena, bien, alors... Ben, vous allez à cette porte-là, et vous allez monter les deux étages, et vous allez vous présenter. Donc je suis plutôt... Oui, je suis pas très à l'aise, là, parce que je rentre dans un monde qui est un monde d'adultes. Je sors de l'école, je rentre dans un monde d'adultes, je suis plutôt inquiet, et merveille des merveilles, je vais rentrer dans un laboratoire d'analyse où il n'y a que des femmes.
Un univers de femmes pour commencer.
Un univers de femmes pour commencer, et l'univers des femmes ne m'a jamais quitté depuis.
Alors pendant 3 ans, Jean-Claude Elena, vous allez travailler comme ouvrier, non qualifié, comme laborantin, je ne sais pas comment on dit.
Je suis tellement jeune qu'à l'époque, d'abord, si vous avez 16 ans, on vous paye 20% de moins. Si vous avez 17 ans, c'est 10% de moins. Ouais. Et à 18 ans, vous avez votre salaire complet, qui à l'époque, le salaire, c'était vraiment pas grand-chose. Et mais bon, ça c'est pas grave. Mais c'était d'abord tout ce qui était analytique, analyser les matières premières qu'on achetait. Il fallait les sentir, les analyser, voir si elles étaient conformes. Et ensuite, comme je suis un ouvrier sans qualification, on m'a dit bah écoutez, il y a de la place là comme ouvrier, vous devenez ouvrier et puis allez apprendre à distiller.
Donc vous avez été aussi dans les ateliers de distillation où vous rentriez dans les alambics, oui, pour les nettoyer. Hein.
Oui, il fallait rentrer dans les alambics, les nettoyer. Alors ces alambics, il y a quand même qui font 2000 litres. 2000 litres, c'est énorme. Ouais. Et on rentre par un trou, ce qu'on appelle un trou d'homme. Et il faut, comme il y a plusieurs passes dans la journée, il faut les nettoyer. Comme ça bouillit à l'avant, ça distillait, donc la température est immense. Enfin, la température, c'est très, très, très chaud. Il faut que je rentre avec des espadrilles, parce que sinon je me brûle les pieds. Je rentre en maillot de bain, donc j'ai le maillot de bain en permanence, même en hiver. Et avec un jet d'eau froid, on nettoie.
Et là, c'est un univers d'hommes, justement.
Là, c'est un univers d'hommes parce
ça
que les charges sont lourdes.
Ça sent la transpiration d'homme.
Oui, ça sent l'homme. Oui,
ça sent l'homme. Et comme ça, vous allez aller d'atelier en atelier, de laboratoire en laboratoire. Oui. Et vous allez commencer à rentrer dans l'odeur. C'est pendant ces 3 années aux établissements Chiris que vous allez commencer à enlacer les odeurs, comme vous dites, avec tous vos sens, en les touchant, en les respirant et en les goûtant.
Oui, c'est-à-dire que tout le corps participe, tous les sens participent à ces odeurs. Je veux dire que l'usine a une odeur, et une forte odeur. Et c'est une odeur qui change tous les jours, ou presque tous les jours. Donc, c'est un univers olfactif fort. Mais j'y suis bien. J'y suis bien, j'y suis mieux qu'à l'école. Les gens sont bienveillants. On me regarde faire. J'améliore même des fabrications. Et on me dit, mais tu as des facilités. Alors, j'ai jamais cru ça. J'ai jamais cru. Mais les autres me le disaient. Donc, c'est assez agréable pour son ego et oui, ça permet d'avancer.
La vanille des Antilles. L'iris de Florence. L'encens d'Arabie. La noix muscade des pays chauds. La myrrhe de Somalie, la fève tonka, le vétiver indien, la mousse de chêne, déjà nommée, et enfin le bois de santal.
Le monde animal intervient avec l'ambre gris que le cachalot rejette sur les plages océaniennes, le musc que sécrète un chamois des montagnes d'Asie, le castoreum, salive d'un castor canadien.
Jean-Claude Elena, sur tout ça, sur de la musique italienne, ce n'est pas pour vous déplaire?
Non, c'est à la fois poétique, mais on est loin de la réalité. On était dans un discours purement poétique, et puis c'est un discours que Louise de Villemorin a dans les années 50, et les choses ont changé énormément. Alors ça ne veut pas dire qu'on utilise toujours du santal, on utilise toujours du tonka, on utilise toujours du vétiver. Ils ne proviennent pas forcément des mêmes endroits, et donc je trouve ça amusant, ouais.
En tout cas, c'est pour dire, on voulait vous faire écouter cette énumération pour dire comme vous avez été heureux pendant ces 3 ans dans ces odeurs, dans ces ateliers, alors que vous étiez encore un tout jeune homme qui avait certainement des dons déjà pour reconnaître un vétiver d'Haïti ou un vétiver de La Réunion ou de Java.
Oui, en tout cas, ça m'intéressait. C'est-à-dire que j'apprenais à faire des distinguos, à faire la différence et voir les nuances. À tel point qu'à un moment donné, je pouvais distinguer quel alambic avait distillé le jasmin. Et au nez, on pouvait dire, ah, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Ce que je ne saurais plus faire aujourd'hui, parce que c'est un apprentissage quotidien qui fait qu'au bout d'un certain temps, oui, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là.
Alors en 1963, Jean-Claude Elena, Brigitte Bardot chantait La Madrague.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Jean-Claude Elena, est-ce que Brigitte Bardot était votre genre de beauté à 17 ans?
Non, je crois pas, non. Enfin, je me souviens pas, mais elle n'est pas mon genre de beauté. Mais ce que j'entends, c'est que c'est une voix douce, une voix d'enfant. Et à la fois, quand on la voit en image, ben, elle est d'une sensualité énorme, enfin, fulgurante, forte. Enfin, c'est très charnel quand on la voit. Et donc, ce contraste, c'est ce que je dirais une Lolita. Hein. Ouais. Il y a de ça. Mais évidemment, ça parle au mal.
Que vous êtes.
Que je suis.
Alors, le 4 février 1963, c'est votre journée particulière, Jean-Claude Elena, sur France Inter. Ce jour-là, vous entrez donc comme laborantin dans une des parfumeries de Grasse et vous vous installez donc chez votre grand-mère, je crois,
oui,
qui vivait elle aussi à Grasse, mm-hmm, et qui était venue du Piémont. C'était une femme italienne pour justement cueillir le jasmin.
C'est tout ça, petit. Di tutti i manelli dovete parlare.
En chiusura non deve uscire.
Jean-Claude Elena, vous êtes allé avec votre grand-mère cueillir le jasmin quand vous étiez enfant ?
Oui, je l'accompagnais parce qu'elle avait une maigre retraite. Donc, elle a rangé sa retraite. Et comme elle avait perdu un enfant à la guerre, elle avait aussi une rente, enfin, par cet enfant perdu à la guerre. Donc, mais ça ne suffisait pas pour vivre, ou en tout cas vivre confortablement. Donc, elle allait cueillir le jasmin. Et de temps en temps, elle m'amenait. Alors, ça se passe, évidemment, le jasmin, c'est juillet, août, septembre. Et pendant les congés scolaires, j'en ai pas tous les jours, mais j'allais de temps en temps l'aider à cueillir du jasmin. Et donc, cueillir le jasmin, c'est un énorme effort, parce que une fleur de jasmin, c'est un quart de plume, c'est pas grand-chose. C'est très, très, très léger. Donc, il faut en ramasser des milliers, des milliers, des milliers pour en avoir quelques kilos. Quand on a un grand cueilleur, c'est 4 kilos maximum. Et le mauvais cueilleur, c'est 500 grammes. Donc, j'étais un mauvais cueilleur.
Vous étiez un mauvais cueilleur. C'est une femme que vous aimez beaucoup.
C'est une femme que j'aimais beaucoup parce que c'est une femme qui ne se plaignait jamais, qui était très droite et qui avançait dans la vie, vraiment très... Voilà. Elle a été pour moi un guide, hein, je veux dire vraiment, un guide de volonté et de patience, d'écoute. Et oui, j'avais pour cette femme que de l'admiration.
Elle vous parlait italien ?
Alors, elle ne parlait pas italien parce que je voulais parler italien avec elle. Et puis, elle m'a dit, apprends le français d'abord.
Bon. Donc, c'était en français.
Alors, elle avait appris le français. Elle était piémontaise, elle venait d'Italie. Elle avait appris le français dans une revue américaine qui s'appelait, je ne me souviens plus là.
Le Reader Digest.
Le Reader Digest, voilà, le Reader Digest. Et donc, elle était abonnée au Reader Digest. C'est comme ça qu'elle a appris à lire et elle a appris le français. Ça, je trouvais ça absolument extraordinaire. Et pas question pour moi d'apprendre l'italien.
Jean-Claude Elena, vous dites que cette grand-mère piémontaise a été un guide pour vous. Alors, vous avez eu comme ça dans votre vie des gens avec qui vous avez réfléchi, avec qui vous avez élaboré votre pensée, votre écriture d'écrivain, d'auteur. Et un autre guide, vous avez eu un autre guide, un autre maître. Alors, vous savez qui je vais citer, dites-le vous-même.
Ah, Edmond Roniska.
Le nez n'a pas d'idée. Le nez, c'est un instrument de mesure, c'est tout. Chaque odeur, pour nous, est repérée. Ça se passe dans la tête, naturellement, dans notre ordinateur mental. Par conséquent, c'est donc tout un alphabet qui comporte plusieurs milliers de lettres, si vous voulez, que nous avons à notre disposition. À partir de là, bon, ben, c'est l'imagination qui travaille. C'est un travail d'imagination, hein.
Un travail d'imagination. Est-ce que vous pouvez nous dire, Jean-Claude Elena, qui était Edmond Roniska ?
Alors, Edmond Roniska était le parfumeur de... Le célèbre parfumeur pendant les années 50 jusqu'aux années 80. Pendant 30 ans, il a été le maître absolu de la parfumerie. Et alors, il a fait des parfums pour Rochas, il a fait des parfums pour Dior.
L'eau sauvage.
L'eau sauvage en particulier. Diorissimo, que moi je trouve absolument sublime. Et Diorella, qui était pour moi la cathédrale olfactive parfaite. Bon.
C'était votre maître, vous lisiez tous ses livres, oui. Vous avez copié L'eau sauvage.
Absolument.
Hein? Et alors il y a un des livres de Edmond Roniska qui est son titre, c'était s'intitulait Le jeune compositeur de parfums et d'odeurs. Et vous, Jean-Claude Elena, vous rêviez secrètement de devenir vous aussi compositeur.
Je suis rentré en parfumerie parce que j'étais très très mauvais à l'école et mon père désespéré et mon père m'a dit, écoute, voilà, tu vas rentrer, je te trouve une place de laborantin chez Chéris. Donc je rentre là. Un peu plus tard, je vais devenir assistant de parfumeur et là mon père va me donner un petit livre, un petit livret que Edmond Roniska avait écrit pour devenir parfumeur. Et c'était la première fois, les parfumeurs s'expriment pas, donc c'est la première fois qu'il y avait un parfumeur qui s'exprimait sur sa manière de penser, son éthique, sa façon de penser le parfum. J'ai dévoré ça, j'ai vraiment dévoré ça. Quand je me suis senti un peu plus confortable, c'est-à-dire un peu plus sûr de moi, j'ai demandé rendez-vous.
Ah oui.
Je prends rendez-vous chez lui, et puis il me dit, mais écoutez, alors on prend rendez-vous par téléphone, il me dit, à partir de 4 heures,
Très bien.
Et c'était toujours à partir de 4 heures, quelle que soit la journée, c'était toujours à partir de 4 heures. Donc j'arrive, il est 4 heures, j'arrive, je me présente à la porte. C'est une grande porte vitrée. Je le vois arriver, il ouvre. L'homme est impressionnant, parce que moi je n'avais vu que des photos. L'homme est grand, impressionnant, tout de long comme ça. Et il me dit, vous puez, Elena. C'est pas très agréable à recevoir.
Surtout quand on peut devenir parfumeur, quand on est en train de devenir un parfumeur.
Absolument. Et alors il me dit, vous puez les muscles, rentrez chez vous, lavez-vous et revenez me voir demain. Bien. Je suis revenu le lendemain. Je me suis pas lavé du tout. Enfin, si, je me suis lavé normalement, disons. Je me suis pas changé, j'avais la... Peut-être j'ai changé ma chemise et tout, et je suis revenu. Cette fois-ci, il m'a reçu. En fait, quand il parlait des muscles, il avait raison, parce que à l'époque, et toujours aujourd'hui, c'est que les lessives sont parfumées avec des muscles de synthèse, et c'est cette odeur-là qu'on ressent. Et quand je suis apparu, ben évidemment, voilà, la lessive, j'ai porté la lessive sur moi, il sentait la lessive, il m'a rejeté comme ça, parce qu'il a hissé, il n'aimait pas du tout les muscles. Il faudrait que moi non plus. Enfin, on a pas mal de choses en commun. Moi, je suis pas très pour les muscles, mais bon, c'est une autre histoire.
Je pense que vous êtes plus chaleureux que lui, hein. Sur les archives que j'ai pu regarder, Ilon Runtzka.
Il est dur, oui, il est dur.
Pas
oui.
Facile.
Non, il est pas facile.
Alors, ça a été un de vos maîtres, et puis vous avez comme ça fait de la... Cherchez des choses, Jean-Claude Elena. C'est ça que j'aime dans votre démarche de parfumeur. Vous êtes intéressé à la biologie, particulièrement au travail du
laborite.
Ouais, de laborite, qui a été très à la mode à un moment.
Oui.
Après, vous vous êtes rapproché d'un professeur qui était spécialiste de l'olfaction.
Oui, André Ollet.
Et après, vous avez commencé à écrire sur des carnets, sur une échelle graduée, l'intensité, la durée et la présence. Des matériaux odorants.
Oui, oui. En fait, il y avait un processus qui s'installait petit à petit dans moi, c'est-à-dire qu'il fallait que j'acquière une maîtrise de ce que je faisais. Et donc, il fallait que je comprenne ce que je faisais, parce que faire, c'est une chose, mais prendre du recul par rapport à ce que l'on a fait, ah oui, c'est mieux, parce qu'on va peut-être éviter des erreurs, on va s'améliorer, et donc, il y avait ce besoin de comprendre, mais pourquoi tu fais ça?
Alors, pour comprendre pourquoi vous faisiez ça, Jean-Claude Elena, vous vous êtes aussi intéressé à la linguistique et à la sémiologie.
J'aime la salade, la cannelle, le fromage, les piments, la pâte d'amande, l'odeur du foin coupé, les roses, les pivoines, la lavande, le champagne, des positions légères en politique, Glenn Gould, la bière excessivement glacée, les oreillers plats, le pain grillé, les cigares de Havane, Handel, les promenades mesurées, les poires, les pêches blanches ou de vigne, les cerises, les couleurs, les montres, les stylos, les plumes à écrire, les entremets, le sel cru, les romans réalistes, le piano, le café, Pollock, Twombly, toute la musique romantique, Sartre, Brecht, Jules Verne, Fourier, Eisenstein, les trains, le Médoc, le Bouzy, avoir la monnaie, Bouvard et Pécuchet, marcher en sandales le soir sur de petites routes du sud-ouest, les Marx Brothers, le Serrano à 7 heures du matin en sortant de Salamanque, etc. J'aime, je n'aime pas. Cela n'a aucune importance pour personne. Cela apparemment n'a pas de sens. Et pourtant, tout cela veut dire « mon corps n'est pas le même que le vôtre ».
Jean-Claude Elena, c'est un extrait de Roland Barthes, par Roland Barthes. Et alors, je dois reprendre le début parce que il y a une phrase qui a été enlevée et qui vous concerne. Ça commence comme ça, c'est « J'aime la salade, la cannelle, le fromage, les piments, la pâte d'amande, l'odeur du foin coupé. Et j'aimerais qu'un nez fabriquât un tel parfum. » Voilà ce que dit Barthes. En tout cas, vous avez cherché à mettre des mots, à trouver, à nommer les odeurs, les parfums, les fragrances, je sais pas.
Oui, c'est ça. Il fallait leur donner de la consistance, de la consistance par les mots. Il y a un travail de vocabulaire, c'est-à-dire de, puisque ces odeurs résonnaient en moi, puisqu'elles devenaient, je pouvais en faire des concepts, puisqu'elles devenaient tangibles, je les sentais au sens non pas uniquement olfactif, mais je les sentais dans leur toucher, dans leur matière, je les prenais par tous les sens. Et elles existaient. Et puisqu'elles existent dans ma pensée, il faut que je trouve un moyen pour les exprimer. Alors, il y a eu un travail qui a été fait avec Louvain-la-Neuve sur la sémiologie, qui était de... On va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, on va interroger beaucoup de monde sur les odeurs, on va essayer de voir comment les gens parlent des odeurs. Puis on s'aperçoit que 50% des mots pour décrire une odeur font référence à la chose elle-même, c'est-à-dire ça sent le géranium, le savon, le détergent, la crotte de chien, enfin bref, voilà, ça sent la chose. Et puis, il y a 30% des mots, ça devient beaucoup plus intéressant. C'est des mots qui sont par rapport au toucher. Alors il y a des odeurs crues, il y a des odeurs rudes, rêches, douces. Et puis il y a les odeurs verticales, les odeurs horizontales. Donc il y a tout un ensemble de mots qui vient là et qui signifie vraiment quelque chose. Et alors il y a plusieurs types de douceurs, il y a plusieurs types de le rêche, mais je peux le faire comme ci, je peux le faire comme ça. Ah oui, mais ça devient intéressant là. Parce que la rose, c'est pas suffisant. Mais si je fais une rose douce, une rose rêche, une rose piquante... Ah oui, mais le piquant est plus intéressant que la rose.
Comment mettre du piquant dans la rose?
Oui, comment mettre du piquant dans la rose? Ça devient intéressant.
Ah, ça devient passionnant.
Et oui.
Et c'est ce que vous avez fait.
Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je voulais faire. C'est ça qui m'intéressait. Je vais prendre un exemple qui est... je venais de lire Lévi-Strauss, Triste Tropique. Et dans Triste Tropique, il parle des piments, il parle du Brésil. Et là, donc, il parle de piments. Et le piment, quand vous sentez le piment, ça n'a pas beaucoup d'odeur.
Non.
Il faut prendre un doigt, mettez le doigt, le mettre sur la bouche, puis d'un seul coup, on sent cette brûlure. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je peux représenter olfactivement la brûlure? Est-ce que je peux faire sentir la brûlure? Ça m'intéresse.
Moi aussi, ça m'intéresse. Alors, Jean-Claude Héléna, je vous cite, hein, c'est un extrait de votre livre, « L'écrivain d'odeur ». Mon cerveau olfactif devenait une voûte céleste, où chaque odeur était une étoile plus ou moins lointaine, plus ou moins colorée, plus ou moins brillante. Je n'avais qu'à créer des constellations en reliant les odeurs de la façon la plus simple possible. Dans cette vision holistique, Cassiopée, Orion, la grande ours devenait une odeur de poire, de jasmin, d'œillet, ou encore un ensemble abstrait. Le figuratif ne m'intéressait pas. Seule l'illusion comptait. Je préférais l'idée de la poire, l'idée du jasmin, à l'odeur de la nature à laquelle je ne pouvais pas m'ajouter. En fait, la nature m'intéressait quand je trouvais une façon de la mettre à nu.
Alors, derrière ça, c'est l'idée de la caricature, c'est-à-dire de juste un trait pour représenter quelqu'un, quelques traits pour représenter un arbre, quelques traits pour représenter un fruit. Je veux dire, peu d'éléments, peu de matière, mais d'un seul coup, je sais ce que c'est. Et on va directement au propos. Alors, quand il y a de la surcharge, on ne voit que la surcharge. Et on ne voit pas la chose.
Et ce sera ça, votre signature et votre écriture.
Et ce sera ça, ma signature.
La nudité, la légèreté, l'épure,
oui,
pas d'emphase.
Pas d'emphase pour que, tout de suite, je comprenne. Mais oui, c'est ça.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. Wonderful, I'd remove you. Chips, chips. Datti do di doo, chi boom, chi boom boom. Datti do di doo, chi boom, chi boom boom. Datti do di. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia. Di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Da-ti-do-di-doo.
Vieni, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Dati do di do chi bom chi bom bom. Dati do di do chi bom chi bom bom. Dati do di do.
Vous l'aimez, Paolo Conte?
Ouais.
Ah, ouais. On le savait, c'est pour ça, on s'est dit, c'est ouais. pour vous. Alors jusqu'à 15h sur France Inter, c'est toujours la journée particulière du parfumeur Jean-Claude Elena. 4 février 63, vous avez 17 ans, vous entrez comme laborantin dans une parfumerie de Grasse. Un mois plus tard, en mars 1963, les mineurs, partout en France, se mettent en grève. Une grève qui allait durer plus de 35 jours.
En France, une semaine s'est achevée sur la grève des mineurs sans qu'aucun signe de reprise ait pu être décelé. Dans leur défilé, au contraire, les mineurs ont confirmé leur détermination. D'un bout à l'autre des bassins miniers, les trains sont demeurés immobiles et les roues des fosses n'ont pas repris leur mouvement sinon pour les services de sécurité. Dans les réunions qu'ils ont tenues, les mineurs ont fait de la levée de la réquisition un préalable à toute reprise du travail. Les maires des communes minières de Lorraine, de leur côté, se sont associés aux manifestations et les orateurs se sont préoccupés de la revalorisation de la profession de mineur. Et malgré les paroles apaisantes du Premier ministre, la situation au 11e jour de la grève n'avait pas évolué.
Jean-Claude Elena, vous vous souvenez de cette grève des mineurs ?
Oui, je me souviens de cette grève. Alors, d'autant plus que moi je suis rentré dans le monde du travail et puis tout de suite je suis jeune, donc les syndicats veulent me récupérer. Et on me dit, mais tu sais, on va faire la grève aussi, il faudrait que tu distribues des tracts. Mais à 17 ans, oui, on va distribuer des tracts.
Vous
à 17 ans,
des tracts
et j'ai distribué des tracts à la sortie. Et puis j'étais pour, je parlais, je veux dire, je m'exprimais. Oui, il faut faire la grève parce que j'étais conscient que les salaires étaient très bas. Les gens vivaient avec des salaires maigres, mais vraiment maigres. Et en plus, à l'époque, on est encore pas mal d'ouvriers travaillent au champ. Se font un peu d'argent à l'usine et se font beaucoup d'argent aussi au champ. Ils ont deux métiers en un, donc ils travaillent énormément. C'est absolument des conditions déplorables. Donc, oui, je suis pour et je vais distribuer des tracts. Et le tract prévoit que le lendemain, évidemment, on arrête tout.
Grève. En solidarité avec les mineurs.
Avec solidarité. Le problème, c'est que le lendemain, première heure, je suis là. Et oui, mais tout le monde rentre à nouveau.
Personne ne fait grève.
Et personne ne fait grève. Rares sont les gens qui font grève. Et moi, c'était un choc. Ah, quelle amertume. À pleurer. À pleurer. Mais ça sert à rien, tout ce que j'ai fait. Ça sert à rien d'avoir crié. Ça sert à rien de les avoir encouragés. Ça sert à rien. Ils viennent, ils rentrent travailler. Et le patron a gagné. Alors je me suis toujours situé à gauche, ce que beaucoup de gens n'ont jamais compris, mais c'est pas grave. Mais oui, quand on a vécu ça, on reste à gauche.
Et jamais vous n'auriez pu imaginer, parce que vous deviendriez celui que vous êtes devenu, c'est-à-dire ce grand parfumeur, parfumeur d'Hermès.
Oui, pas du tout.
40 ans plus tard, parce que c'est ça comme ça votre histoire. Vous êtes ouvrier là, vous distribuez votre acte, et 40 ans plus tard, vous êtes le parfumeur de la maison Hermès.
Et qui distribue des parfums.
Et qui distribue des parfums. Alors, l'histoire avec Hermès, elle commence en 2003.
Oui.
Hein, 40 ans après, après que vous ayez commencé comme laborantin. Et c'est Laila Menchari, qui était la grande décoratrice des vitrines Hermès, qui vous invite dans sa maison à Hammamet.
Hammamet était un petit village de pêcheurs, très modeste, pas du tout recherché par les Tunisois, et qui comprenait une petite citadelle entourée de remparts, et qui protégeait les maisons de pêcheurs. Et puis le golfe. Le golfe d'où l'on n'apercevait aucune maison. Aucune maison. C'était des jardins, des vergers. Des vergers. Ça n'était pas de vrais jardins, c'était des vergers. En fait, lorsque Jean est arrivé, il a donc suivi ce golfe. Il s'est baigné dans un lieu du golfe qui lui convenait. Et puis là, il a cherché des gens. Il est rentré dans les terres. Il y avait... Mon Dieu, c'était du sable. C'était du sable et quelques oliviers clairsemés avec des cactus, voilà, des agaves. Et puis là, il a rencontré les gens, les propriétaires. Il a passé, je crois, une semaine ou deux à l'hôtel. Avant de partir, il voulait fixer quelque chose. Il a acheté une petite parcelle au bord de la mer, là où est le bassin de la mer actuellement. Et puis il est reparti rejoindre Violette à Paris. Et là, il lui a tout raconté et ils ont décidé de partir, de tout quitter.
C'est Leïla Menchari qu'on vient d'entendre.
Oui, j'adore sa voix et j'ai beaucoup d'amour pour elle, beaucoup d'affection.
Alors, ça aurait pu être une autre journée particulière. Vous avez d'ailleurs hésité hein, quand je vous ai demandé de choisir une journée particulière parce que ça a été un choc, enfin ça a été une révélation, ce jardin que vous avez découvert. Je dois juste, pour expliquer l'archive que l'on vient d'entendre, dire que Jean et Violette Hanson étaient les premiers propriétaires. C'est ceux qui ont créé cette maison et ce jardin à la fin des années 20 à Hammamet. Et c'est Leïla Menchari qui en a hérité. Et ce jardin, apparemment, est un jardin et une maison... Je ne sais pas comment dire extraordinaire, éternelle. On y parle d'éternité...
Oui, suspendu, éternel, extraordinaire. Mais oui, c'est comme ça le jardin. C'est un très très beau jardin. Et c'est une découverte. Il y a plusieurs découvertes que je fais avec Hermès et surtout avec Leïla. D'abord, c'est son jardin. Au départ, je voulais pas venir dans son jardin parce que je dis mais racontez-moi le jardin et puis de toute manière mon imaginaire va travailler. Non, il faut que vous veniez dans le jardin. Donc j'y suis allé dans ce jardin.
En 2003.
Et le jardin est peuplé de paons. Alors il y a des léons partout. qui crie et qui passe comme ça, qui vous regarde, voilà, comme ça. Et puis, le jardin, c'est un jardin sous les arbres. Parce qu'en Tunisie, eh bien, le soleil est si fort qu'on ne peut qu'avoir des jardins sous les arbres, avec des grands bassins, de l'eau qui amène, voilà, cette eau qui permet d'avoir des beaux jardins. Et puis, un long chemin qui arrive, avec un petit portail qui arrive sur la mer. Magnifique endroit. Et voilà, je vais vivre ça intensément parce que le projet qu'on m'a demandé, ce qu'on m'a demandé, c'est il faut que tu mettes ce jardin dans un flacon.
Ah. Alors là, c'était moins drôle.
Parce que... Mais j'ai pas d'idée. Mais aucune idée. Mais vraiment aucune idée. Alors, c'est nuit blanche.
Angoisse.
Je le dis à Leïla parce que tout de suite je sens que oui on est proche. Je vais pas le raconter au marketing, ils vont pas comprendre, ils vont avoir la trouille que je trouve pas. Mais Leïla peut comprendre et Leïla me dit ah vous me rassurez. Merveilleuse phrase de dire vous me rassurez alors que c'est moi qui ai une angoisse. C'était très flat, oui très malin, très très intelligent de dire ça. Et j'ai trouvé. Bien sûr que j'ai trouvé.
Et alors, le dernier jour.
J'ai trouvé le dernier jour.
Grâce à quoi?
Et grâce. Alors, c'était très simple. C'était. Quand vous êtes dans une situation de création, il y a tous les sens qui se mettent à travailler. Et ce jour-là, on fêtait notre départ. Et il y avait un plateau sur lequel il y avait des verres en champagne. Entre les verres de champagne et le plateau, il y avait des feuilles de figuier. Et on allait boire comme ça du champagne pour fêter le départ. Et il y a une jeune femme. Et je ne me souviendrai jamais. Qui est cette jeune femme? C'est une jeune femme qui prend une feuille de figuier, qui la déchire, qui la porte sous son nez, qui a un joli sourire. Et à ce moment-là, je dis, oui, c'est ça. Le figuier sera l'odeur du jardin méditerrané. Parce qu'en fait, le problème de la création, c'est de faire un choix et de trouver un thème qui est suffisamment fort pour exprimer la chose. Oui, le figuier, c'est la Méditerranée.
Alors, vous allez revenir à Paris, vous allez écrire un texte, puisque ça passe par les mots, vous nous l'avez expliqué, Jean-Claude Elena, sur ce jardin hein, en Méditerranée, de Méditerranée. Et puis, vous voyez que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il manque quelque chose à ce que vous imaginez. Il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manquait? J'adore cette histoire.
Je me souviens.
L'ombre.
Ah
alors,
oui.
Quelle ombre.
Oui, c'est vrai. Merci de me le rappeler. Oui, il y avait l'ombre. Ah oui. Mais c'est vrai qu'il y avait l'ombre. Et le jardin, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le jardin était un jardin sous les arbres, donc il y a l'ombre. Donc il faut du sombre, il faut du, il faut du noir. Et donc j'ai besoin de matériaux qui sentent, voilà, qui ont l'odeur, une odeur d'ombre.
Comment mettre de l'ombre?
Comment mettre de l'ombre dans le parfum? Et dans les parfums, dans les matériaux, par exemple, il y a la mousse de chêne qui vous donne des odeurs d'ombre. Parce que c'est une odeur plutôt sombre, donc plutôt noire. Et vous rajoutez un petit peu, mais tout de suite, il y a des tonalités sombres comme ça qui se rajoutent. Mais oui, ça marche.
Et ça a marché. Un jardin en Méditerranée. Et puis après, derrière, s'ouvrira la collection des jardins. Un jardin sur le Nil, un jardin après la mousson, un jardin sur le toit. Le jardin de Monsieur Lee. Et puis il y a d'autres noms qui viennent. Ambre narguilé, poivre samarcande, rose ikebana, vétiver tonka, paprika réglisse, brin de réglisse, vanille galante. Le parfum avec vous, Jean-Claude Elena, c'est un acte poétique.
Ah oui, je pense que c'est un acte poétique. Il faut que c'est un acte poétique, c'est un geste poétique. Se parfumer est un geste poétique.
Et alors, je me demandais si certains écrivains vous avaient accompagné dans cette recherche poétique. Et évidemment, impossible de parler de vous, Jean-Claude Elena, sans parler de Jean Giono.
Le plaisir que je prends à écrire un livre dépasse tous les autres plaisirs. D'écrire, de me livrer à ce travail de marqueterie qui est le style, le remplacer tel mot par une virgule, ou remplacer cette virgule par un adverbe, ou allonger la phrase, ou la raccourcir, sentir le rythme se faire, ou le chercher, se heurter contre les difficultés, avoir, voir naître au milieu des, par le caractère, voir naître le style, ou parfois par le style, voir naître le caractère des personnages. Alors ça, c'est mon plaisir personnel. Une fois que c'est écrit, mon plaisir étant fini et terminé, et ne pouvant se continuer que dans une nouvelle écriture, le reste, voir un livre édité ou m'intéresser à son sort, ne ferait que ralentir mon bonheur ou le retarder, et c'est pourquoi je ne m'en sers pas.
Qu'est-ce qui vous fait sourire, Jean-Claude Elena, en écoutant Jean Giono ?
Vous ne pouvez pas savoir comment... C'est en écho à ce que je pense pour les parfums. C'est-à-dire que mon bonheur, c'est la construction. C'est-à-dire, voilà, c'est la virgule, c'est le changement du mot, c'est le changement de la matière. C'est non, plutôt cette matière-là que celle-là. C'est là, il faut que ça se sente un peu plus longtemps comme ça. Et on est dans l'écriture.
C'est la grammaire, c'est la syntaxe.
C'est la grammaire, oui, c'est la syntaxe olfactive. Hein. Et ça devient intéressant. Et quand c'est publié, quand c'est sur le marché, mais ça ne m'intéresse plus du tout. Alors, on me dit, ben, est-ce que vous êtes content? Oui, je suis content, mais non, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais et ce que je vais faire. Le reste, c'est déjà passé.
Est-ce que vous voulez nous lire un extrait d'un des textes que vous préférez de Jean Giono, Jean-Claude Elena?
Rondeur des jours. Les jours commencent et finissent dans une heure trouble de la nuit. Ils n'ont pas la forme longue, cette forme des choses qui vont vers des buts, la flèche, la route, la course de l'homme. Ils ont la forme ronde, cette forme des choses éternelles et statiques, le soleil, le monde, Dieu. La civilisation a voulu nous persuader que nous allions vers quelque chose, un but lointain. Nous avons oublié que notre seul but, c'est vivre, et que vivre, nous le faisons chaque jour et tous les jours, et qu'à toutes les heures de la journée, nous atteignons notre but véritable si nous vivons. Tous les gens civilisés se représentent le jour comme commençant à l'aube, ou un peu après, ou longtemps après, enfin à une heure fixée par le début de leur travail, qui s'allonge à travers leur travail, pendant ce qu'ils appellent toute la journée. Puis, qu'il finit quand il ferme les paupières. Ce sont ceux-là qui disent « Les jours sont longs ». Non, les jours sont ronds. Nous allons vers rien, justement parce que nous allons vers tout. Et tout est atteint du moment que nous allons tous nos sens prêts à sentir. Les jours sont des fruits et notre rôle est de les manger, de les goûter doucement ou voracement, selon notre nature propre, de profiter de tout ce qu'ils contiennent, d'en faire notre chair spirituelle et notre âme, de vivre. Vivre n'a pas d'autre sens que ça.
«
this dream I'm dreaming. Won't you wake me up tonight? 'Cause this life I'm living doesn't really feel like mine. This strange dream. Never thought you would leave. I never thought I'd have to start again. Somebody wake me up. Don't you wish we were dreaming?
Zoé Varié sur France Inter.
4 février 1963, on va le savoir, hein, Jean-Claude Elena, mais bon. Est-ce que vous savez que 1963, c'est le début de la Beatlemania? Le 4 novembre 1963, les Beatles jouent devant la reine d'Angleterre. L'année, c'est aussi l'année de la sortie du premier 45 tours des Rolling Stones.
Ouais.
En France, Eddie Mitchell quitte les chaussettes noires. Franck Alamo chante Biche au ma biche et Jacques Brel des bonbons.
Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable. Puis les bonbons c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Mais je vous ai apporté des bonbons.
Jean-Claude Elena, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire pendant qu'on entend Jacques Brel?
Je dirais, il faut aimer les femmes pour dire des choses comme ça.
Pour parler des bonbons et
pour
des fleurs.
Des bonbons et des fleurs. Ouais. Ça, c'est évident. Et par contre, vous m'avez parlé des Rolling Stones et des Beatles. Moi, j'étais plutôt Beatles que Rolling Stones.
Ouais.
Et j'étais plutôt Eddie Mitchell que Johnny Hallyday. Donc voilà, j'avais déjà pris position.
Oui, encore une fois. Alors voici, Jean-Claude, une courte rétrospective de l'année 1963 des actualités françaises.
À dire vrai, on parla beaucoup en 1963 de la pluie et du beau temps, ou plus exactement du mauvais temps. Montmartre devenu station de sport d'hiver. Les canaux gelés, où des centaines de péniches restèrent bloquées avec leur chargement de charbon, alimentèrent bien des conversations. N'alla-t-on pas jusqu'à signaler en Île-de-France le retour des loups, qui se révélèrent être en définitive de braves chiens-loups. Plus grave fut l'explosion raciale qui agita les États-Unis et plus spécialement l'Alabama. La marche des Noirs conduisit à Washington 200 000 manifestants réclamant l'égalité de fait entre blancs et noirs. Les Américains avaient eu en tout cas une satisfaction. Pour la première fois, la Joconde avait traversé l'océan pour venir leur sourire. 1963 aura avant tout été marqué par l'écho des trois coups de feu tirés d'une fenêtre de Dallas. Instinctivement, chacun s'est senti concerné par l'assassinat du président Kennedy, mêlé à la douleur d'une famille frappée au cœur.
Jean-Claude Elena, que vous inspire cette très courte rétrospective de l'année 63 ?
À la fois très courte, mais très dense.
Hein, ouais.
Parce que quand je pense aux États-Unis, avec le problème avec les Noirs, eh bien, le problème avec les Noirs n'est pas toujours résolu. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Et j'ai adoré Obama, et je trouvais ça merveilleux qu'ils aient voté pour Obama, et je ne comprends pas la suite. Mais je n'ai jamais compris les États-Unis non plus.
Ouais.
Alors, je dirais ce sont des grands enfants qui jouent avec, dans la main, une bombe en permanence.
Ce que ne dit pas cette rétrospective, Jean-Claude Elena, c'est qu'en 1963, on inaugurait la Maison de la Radio, que l'on diffusait le premier épisode de Thierry Lafronde. En 1963 aussi, Édith Piaf et Jean Cocteau nous quittaient. Et au Festival de Cannes, le Guépard remportait la Palme d'Or.
Ah, pas mal.
Pas mal, hein.
Oui, il y a pas mal de choses là-dedans.
Pas mal de choses. Mais oui. Juste avant de se quitter, comme cadeau de revoir, en fait. Mm-hmm. Un peu de poésie, peu de mots.
Un peu de mots.
La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
Baudelaire, correspondance. Par Lisette Fischer. Jean-Claude Elena, vous le connaissez par cœur, j'ai l'impression.
Très beau texte. Et je dirais, seule la diction ne va plus. On ne le dirait plus de la même manière aujourd'hui. Mais sinon, le texte est absolument merveilleux. Et puis, toujours d'actualité. Oui, on peut parler des parfums comme ça encore aujourd'hui.
Et encore, nous n'avons pas parlé de la forme
des parfums,
et des odeurs.
Une prochaine émission.
Une prochaine fois. Merci Jean-Claude Elena de nous avoir consacré cette heure. Jusqu'au 5 janvier, la fabuleuse histoire de l'eau de Cologne au Musée international de la parfumerie à Grasse. Vous en êtes le commissaire, Jean-Claude Elena. Ça, j'ai très envie d'aller y faire un tour. Sur le site de l'émission, on trouvera toutes les références de vos livres.
Merci.
Et aussi de la liste, peut-être, pas la liste exhaustive de tous vos parfums, mais quelques noms.
Il y en a pas mal.
Il y en a pas mal. C'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combe à la réalisation, Flora Bernard à la programmation musicale. Ce n'était pas Djoubaka mais Jean-Baptiste Audibert. Et à la technique aujourd'hui, Alain Joubert. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Jean-Claude.
Merci.
Suite après le flash, ce sera Vincent Josse et son grand atelier.